Bonjour Clara Lecoq-Réal, bonjour à toutes et à tous.
Le plan pauvreté Jacques, présenté jeudi dernier par le président, a suscité le débat, nous en avions parlé. Et Jacques, l'histoire et la philosophie de la protection sociale peuvent éclairer ce débat.
Et oui, dans le supplément Idées du Monde, Serge Pogam revient sur cette histoire et sur ceux qui ont inspiré l'action publique de la solidarité envers les plus pauvres à la fin du 19e siècle, sous la 3e République. La loi de 1893 instaure la gratuité des soins pour les malades privés de ressources, celle de 1904 protège les enfants abandonnés, celle de 1905 organise l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables sans ressources. Cette politique s'inspire des idées du député Léon Bourgeois, notamment celle de la dette sociale. Nous sommes tous les héritiers du legs accumulé par les générations qui nous ont précédés, mais aussi redevables d'une part importante de notre activité, de notre propriété ou de notre liberté à l'échange constant de service entre les hommes. La solidarité est donc le fondement du lien social, voire du contrat social. Serge Pogam évoque également l'apport de la pensée de Durkheim, qui dans son premier livre, De la division du travail social, un ouvrage de 1893, développe la notion de solidarité organique. Contrairement à la solidarité mécanique des sociétés traditionnelles, où les individus se ressemblent et partagent les mêmes valeurs, dans les sociétés modernes, où les individus sont différents et autonomes, c'est par le travail qu'ils maintiennent de fortes relations d'interdépendance et parce qu'il instaure une complémentarité des fonctions, il est devenu le fondement de l'intégration sociale, laquelle renforce la conscience de l'utilité sociale de chacun, de l'intérêt des collectifs et la nécessité d'intégrer ceux-là même qui ont perdu leur emploi. À la libération, l'aspiration générale à l'égalité conduite à la mise en place du système de protection sociale français. On pense alors qu'à terme, il mettra fin à la pauvreté. Mais dans les années 1980, on assiste avec l'augmentation du chômage à l'apparition de ceux qu'on appelle les nouveaux pauvres, des chômeurs de longue durée en fin de droit, mais aussi des jeunes qui ne parviennent pas à entrer dans le monde du travail et qui perdent du coup les uns et les autres le bénéfice de la protection sociale. D'où le retour à l'idée d'une dette de la nation à l'égard des plus défavorisés avec le RMI. Aujourd'hui, c'est après le RSA, le revenu universel d'activité présenté par le président comme la clé de voûte de son plan pauvreté. Dans les pages débat de La Croix, l'idée de fusionner le plus grand nombre possible de prestations et de simplifier leur accès paraît aller dans le bon sens. Mais Julien Damon regrette les exclus, notamment les étudiants, dont une partie bénéficie des allocations logement, même si leurs parents sont aisés. Et Claire Hédon, présidente d'ATD Quart-Monde, estime que si la simplification devrait réduire le nombre de ceux qui abandonnent le recours aux aides. Une allocation unique ne doit pas être un prétexte pour baisser le montant des prestations sociales. Elle relève également le fait que Emmanuel Macron a conditionné le versement de cette allocation unique à des devoirs, celui par exemple de ne pas refuser plus de 2 offres raisonnables d'emploi. S'il n'y a pas lieu de s'offusquer de la complémentarité des droits et des devoirs, tout dépend en l'occurrence de la nature des offres, alors que se multiplient les petits jobs mal payés aux horaires invraisemblables. L'accent mis sur les devoirs dénote par ailleurs une évolution sensible dans les mentalités à l'égard de la pauvreté, illustrée par le discours lancinant sur l'assistanat et la stigmatisation des pauvres. Une remise en cause du principe de la solidarité qui en inverse les termes. La Troisième République avait proclamé la dette de la nation envers les pauvres. Aujourd'hui, on a parfois l'impression que ce sont les pauvres qui ont une dette à l'égard de la nation. La dernière livraison de la revue Esprit consacre tout un dossier à cette mutation dans les représentations politiques. François Dubé avait signalé le passage d'un modèle de l'égalité des places à celui de l'égalité des chances, rappelle Anne Dugin, ce qui modifie en profondeur notre conception des inégalités. La notion de justice sociale désigne moins la possibilité d'une relative convergence des conditions de vie que celle d'une compétition équitable pour accéder à des positions inégales. Si bien, ajoute le sociologue dans ses pages, que la figure dominante de l'inégalité n'est plus celle de l'exploitation, mais celle de la discrimination des femmes, des jeunes ou des immigrés. Et du coup, la question des inégalités passe au second plan. L'idéologie méritocratique ajoute la touche utilitariste qui voudrait que la réussite de quelques-uns profite à tous. C'est la métaphore des premiers de cordée qui rappelle celle du ruissellement de la richesse du haut vers le bas, désormais obsolète, alors que se creusent les des inégalités et qu'augmente la richesse des plus riches.